Je vous invite à tourner dans vos Bibles, dans l'Épître aux Éphésiens, après une mini-série sur la prière. Je voudrais reprendre l'étude ou les messages par exposition de l'Épître aux Éphésiens. Nous arrivons quand même au chapitre 5, au verset 15, et nous allons voir jusqu'au verset 17 ce matin. Donc, je vous invite à tourner vos Bibles en chapitre 5, versets 15 à 17 de l'Épître aux Éphésiens. Si on peut monter un petit peu le son, ou c'est bon, moi je ne m'entends pas trop bien. Merci. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. J'aimerais brièvement, puisqu'on reprend le sujet d'Éphésiens, aux Éphésiens, faire un petit survol rapide à partir de chapitre 4. Ici, le thème, c'est la marche du croyant. Nous avons commencé à le regarder à partir du chapitre 4. Et ce matin, nous allons regarder la marche dans la sagesse. En fait, l'Épître aux Éphésiens, c'est verset chapitre 1 à 3, la position du croyant en Christ. Et chapitre 4 à 6, la marche et le combat du croyant. Il y a un paradoxe, n'est-ce pas, dans l'Épître aux Éphésiens. On est assis dans les lieux célestes, mais on marche sur terre et on doit marcher d'une certaine façon. Ensuite, on a vu ensemble que la marche du croyant, à partir du chapitre 4, c'est la marche dans la vie de l'Église, dans la vie personnelle, dans la société, dans la famille. Il y aurait d'autres façons de le divisé, mais bon, j'ai décidé de prendre cette façon de suivre le plan de l'Épître aux Éphésiens. À marcher de manière digne, verset 2, on a vu que, verset 1, marcher de manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, douceur, patience, amour et unité dans l'Église. Ensuite, on a regardé ensemble à ne plus marcher comme les païens, mais en fait à marcher en nouveauté de vie, et cela est possible lorsqu'on connaît Jésus-Christ, qu'on a fait l'expérience d'une nouvelle naissance, mais aussi qu'on continue à s'attacher à lui, le connaître dans le sens d'une réelle expérience personnelle, quotidienne, dans notre marche avec lui, et à changer de conduite. On a vu aussi que Dieu nous appelle à marcher dans l'amour, marcher dans la lumière, marcher dans la sagesse, et pour faire le lien avec ce qui précédait, que nous avons eu l'occasion d'exposer il y a quand même quelques semaines. On va regarder tout d'abord la marche dans l'amour. Dieu nous demande d'être imitateurs de Dieu, de marcher donc dans l'amour. C'est une supplication de la part de l'apôtre Paul. Ensuite, marcher à l'exemple de Christ dans l'amour, n'est-ce pas? C'est un modèle. Et puis, à vivre séparé du péché, c'est être séparé de la contrefaçon de l'amour. On a vu ensemble que le diable nous pousse ou pousse la société à vivre selon la chair un certain amour, mais qui n'a rien à faire avec l'amour divin. On a regardé ensemble la marche dans la lumière, c'est marcher en contraste avec les ténèbres, c'est un contraste donc, marcher, porter du fruit, le fruit de la lumière, ça consiste à porter la bonté, la justice, la vérité, c'est les caractéristiques de la lumière. Ensuite, examiner ce qui est agréable au Seigneur, c'est donc un commandement. Et puis, il y a un appel plus tard, ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, c'est toujours un commandement. Et puis ensuite, les condamner, c'est notre mandat. Et l'appel divin de sortir des ténèbres pour vivre dans la lumière. Alors, on va regarder ensemble ce matin ce qu'est la marche dans la sagesse. Et j'ai trouvé que la traduction de Darby, la traduction plus littérale, est plus pertinente ce matin, et c'est ce que nous allons regarder ensemble. Il est traduit donc, Darby, par « Prenez donc garde à marcher soigneusement ». C'est très proche du texte grec, ici c'est donc un impératif. « Non pas comme étant dépourvu de sagesse, mais comme étant sage », c'est une priorité. Et puis, saisissant l'occasion parce que les jours sont mauvais, c'est une opportunité quotidienne, et c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ce sont deux impératifs. Et on va regarder ensemble ce qu'est la marche dans la sagesse, et je me propose de suite à regarder en introduction ce que signifie d'être sage et d'être insensé. Ça vous dit? Est-ce que vous êtes sage ce matin? Vous avez eu les bons points du Seigneur? Ou est-ce que vous agissez en insensé? Quelle est votre conduite? Est-ce que vous vous conduisez de manière sage ou vous vous conduisez de manière insensée? Vous savez, dans le livre des Proverbes, si vous lisez le livre des Proverbes, catalogue ou donne la définition de deux voies. La voie de la folie, qui est la voie de l'insensé, la voie du sage, qui est la voie de la foi. Nous avons besoin de lire le livre des Proverbes pour savoir ce que c'est que la voie de la sagesse. En fait, à partir du verset 15, l'apôtre Paul nous donne sept versets, versets 15 à 21, qui sont des exhortations négatives ou positives. En fait, il nous dit de marcher, de conduire, mais le mot grec ici peut être traduit aussi par marcher. Prenez donc garde de vous conduire ou de marcher avec circonspection ou de marcher soigneusement ou avec soin, comme dit a traduit Darby. En fait, se conduire avec circonspection, c'est vivre dans la lumière en tant qu'enfant de Dieu, c'est notre position. Dieu nous a sauvés. Une fois qu'il nous a sauvés, il nous a rachetés, purifiés, lavés, sanctifiés. Il nous demande de marcher dans l'amour, de marcher dans l'unité, de marcher dans la lumière, mais aussi de marcher dans la sagesse. Il a fait de nous aussi des sages. Combien de temps faut-il avoir dans la vie chrétienne pour être déclaré sage devant Dieu? Le jour où on est de nouveau, Dieu déclare que nous avons la sagesse de Christ en nous. Pas besoin d'attendre des années ou des décennies, ou même d'avoir des cheveux blancs, pour avoir la sagesse de Christ. Nous avons tout pleinement en Christ, et la sagesse de Dieu en nous fait partie du plan de Dieu pour nous d'être déclarés sages. Alors marcher comme des insensés, c'est tout simplement quitter ce niveau dans lequel Dieu nous a placés pour adopter une conduite selon le monde. Il y a la voie des insensés et la voie des sages. Il y a aussi le croyant qui, devenu sage, peut redevenir insensé. Et c'est ce que nous allons regarder en introduction tout d'abord ce matin. Comment est-ce que caractérise la Bible l'insensé? Nous allons faire rapidement ou esquisser le portrait de l'insensé pour arriver en contraste, évidemment, vous l'avez compris, avec le portrait du sage. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Vous savez, Nietzsche a dit, Dieu est mort, nous l'avons tué. Voilà, ça c'est insensé, parce que Dieu est bien vivant, n'est-ce pas? Oui? Ah, ouf. Ok, vous suivez. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est moralement corrompu, il commet des choses abominables. En fait, l'insensé est celui dont les habitudes de pensée et de vivre s'opposent à Dieu. Être insensé, selon la Bible, c'est d'être contre Dieu. Pourquoi est-ce que les hommes sont-ils insensés? Parce qu'ils sont insensés depuis qu'ils sont nés, parce qu'ils sont séparés de Dieu. Ils sont insensés depuis la naissance. C'est pour ça que Paul dit qu'à un moment donné, nous étions des insensés, mais que maintenant, nous avons été rachetés par le précieux sang de Jésus-Christ. La Bible dit même ceci. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. À partir du moment où l'homme qui voit la création, les perfections invisibles de Dieu, dit « Dieu n'existe pas », la Bible dit et déclare qu'il est un insensé. Donc le plus grand savant, ce n'est pas une question d'intelligence et d'instruction, on peut être très intelligent d'un point de vue humain, très instruit, et d'après la parole de Dieu, être déclaré comme un fou, un insensé. Dans la Bible, c'est synonyme de fou. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il est venu, en préparant ce message, une illustration. Je me souviens avoir pris mon fils, mon aîné Daniel, un jour en visite dans un hôpital pour visiter chrétiens. Enfin, soi-disant chrétien, je dirais. Et j'étais frappé de voir combien mon fils, qui avait quel âge, peut-être 10 ans, se comportait avec une telle sagesse par rapport à un homme qui était en dehors de la volonté de Dieu. Un enfant qui accepte le Seigneur et qui connaît Dieu peut avoir une sagesse, mais tellement plus élevée et intelligente qu'un homme qui a peut-être vécu 50 ans, 60 ans, en dehors des plans de Dieu. La sagesse n'est pas une question d'âge. La sagesse est une question d'une relation avec Jésus-Christ qui a été fait pour nous, justice, sanctification et sagesse. En fait, j'aimerais souligner ceci aussi. Personne ne peut vivre sans la notion d'un Dieu quelconque et l'insensé spirituel remplace immanquablement le vrai Dieu par un faux. Les hommes nous sommes créés pour adorer. Le jour où on dit que Dieu est mort, on commence à se tourner vers une autre idolâtrie. On remplace Dieu avec un grand D par des faux dieux. Et même la Bible dit « la voie de l'insensé est droite à ses yeux ». Vous avez plein de gens qui sont athées, agnostiques, qui sont tout à fait sincères. Comme je dis souvent, sincères, mais sincèrement perdus. Ils ne savent pas qu'ils sont perdus et ils se croient intelligents. Il n'y a qu'à lire les philosophes, n'est-ce pas, français bien connus pour montrer des grandes phrases, des grands raisonnements qui pour Dieu en fait sont des langages insensés parce qu'ils ignorent Dieu. En fait, l'insensé, même dit la Bible ceci, la langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. Autant la sagesse peut donner et partager une sagesse, autant le fou ne peut que partager sa folie. Donc un homme sans Dieu, privé de Dieu, la Bible dit qu'il est un insensé parce qu'il ne fait pas de Dieu le centre de sa vie, de son intelligence spirituelle, de sa connaissance, et donc qu'il vit en dehors des voies de Dieu et qu'il est un insensé parce que Dieu est son créateur qu'il n'a pas reconnu. En fait, il fait de lui-même un propre Dieu et n'a plus la notion du bien et du mal souvent et du péché. Pour lui, le péché est tout à fait acceptable. Dans l'humanisme, qui est l'homme est la mesure de toute chose, l'homme, n'est-ce pas, prend sa voix, et lorsqu'il est convaincu d'une voix, il traite les autres d'insensés, même s'il est complètement dans l'erreur. C'est ce que fait le non-régénéré. Il rejette Dieu dans ses pensées, dans ses actes. Il est insensé parce qu'il est son propre Dieu. Il est insensé parce qu'il se moque du péché. On dit qu'à la cour d'Angleterre, il y avait un fou, le fou du roi, n'est-ce pas, qui était pas si fou que ça dans un sens, mais qui était le fou du roi dans le sens qui devait faire rire et amuser le roi. Et le roi mourant était désespéré. Et donc, il cherchait une certaine consolation. Et donc, il s'est adressé à son fou. Et le fou lui a dit, mais vous savez, j'ai trouvé plus fou que moi. Ah bon? Oui, c'est vous. Pourquoi? Parce que vous mourrez et vous n'êtes pas prêt à rencontrer votre Dieu. Quand l'homme expulse Dieu de sa vie, il court dans des voies de plus en plus insensées. Et la Bible dit, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasiront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. C'est incroyable, en étudiant et préparant ce message, combien la Bible crée un contraste, c'est noir et blanc. Il y a la voix de l'insensé, la voix du sage, la voix de la folie, la voix de la foi. En fait, même il y a une destinée des insensés qui nous est écrite en 2 Timothée, apprenant toujours, mais ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Il meurt par défaut de raison, nous dit Proverbe 10, verset 21. Donc un insensé, quelqu'un qui a une raison aveugle, qui ne sait pas qu'il est perdu, qui rejette Dieu et qui fait de lui-même un petit Dieu avec sa propre philosophie, propre vérité. Regardons quelque chose maintenant de plus positif, n'est-ce pas, qui est le portrait du sage, selon la Bible. Tout d'abord, quelles sont les sources de la sagesse? La Bible dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». Non seulement Dieu nous donne la crainte de son nom, de sa personne, mais nous devons rester dans cette crainte, qui nous éloigne d'ailleurs du péché. les justes, les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. En fait, qu'est-ce que c'est que abandonner la folie pour la sagesse, si ce n'est de se détourner de soi-même pour se tourner vers Dieu? La Bible dit, la parole même de Dieu dit qu'ils peuvent rendre sages à salut par la foi en Jésus-Christ. La seule façon de devenir sage, selon Dieu, c'est de croire dans les Écritures. Alors ça n'a rien à faire avec la sagesse grecque et toutes ces philosophies des anciens Grecs ou même des contemporains de Paul. C'est une philosophie ou le sophisme ou les discussions sans fin de théories qui n'ont vraiment rien à voir avec la vie réelle. D'ailleurs, il y a beaucoup de philosophes qui changent de philosophie et qui ne changent pas de comportement. La vérité nous transforme, n'est-ce pas? Tandis que la philosophie peut nous amener à certaines considérations intellectuelles, mais n'amène pas des comportements conformes à la parole de Dieu. En fait, dans l'Écriture, la sagesse repose sur la conviction et la conduite, le fait de reconnaître l'existence de Dieu et de lui obéir. Plus on obéit au Seigneur, plus on marche de façon digne, plus on marche de façon humble, plus on marche de façon avec douceur, avec patience, en unité dans l'Église, en ne se conformant pas au monde païen, en étant renouvelé par l'Esprit Saint, en marchant dans l'amour, en marchant dans la lumière et en marchant dans la sagesse. Ici, dans le texte, l'apôtre Paul nous donne quatre caractéristiques de la voie de la sagesse. Il est question ici de se conduire avec circonspection, de racheter le temps, de ne pas être considéré, mais de comprendre quelle est la volonté du Seigneur. En fait, le croyant, le jour où il accepte le Seigneur, et devient sage. Et les chrétiens doivent se conduire avec sagesse plutôt que n'importe comment, parce qu'ils sont les enfants bien-aimés de Dieu, sauvés par le sacrifice de ses fils bien-aimés. Ta vie parle tellement fort que je ne peux pas t'entendre, dit quelqu'un. Une fois qu'on a accepté le Seigneur, notre vie est différente. Le comportement du croyant est différent du comportement de celui qui vit dans la folie. Ou en apparence, un croyant et un incroyant peuvent vivre pratiquement pareillement, dans le sens qu'ils se lèvent le matin, ils prennent le petit déjeuner, ils vont au travail, ils doivent travailler pour nourrir leur famille, ils doivent rentrer chez eux, dormir, avoir des loisirs, et bien des choses en commun, si ce n'est que ce n'est pas la même vie. La Bible dit, Paul dit à Timothée, « Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Et Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous, sagesse, sanctification et rédemption. Un des commentateurs de ce passage, John MacArthur, dit qu'on a tendance, en tant qu'église ou croyant, à voir différentes étapes dans la vie chrétienne. Pour ceux qui connaissent un petit peu la théologie soulignée dans ce sens de John MacArthur, alors voilà, on est sauvé. Après, on apprend que le Seigneur est Seigneur. Après, on doit se sanctifier. Après, on doit devenir sage. Et ainsi, on prend la vie chrétienne un peu, alors c'est dans mes mots, excusez, en tranche de saucisson. Ou quelque part, il y a des étapes, n'est-ce pas? C'est vrai qu'une fois qu'on est sanctifié, on l'est une fois pour toutes, dit la Bible, en Christ. Après, on est rendu saint, on est déclaré saint, on est rendu saint. Et c'est progressif jusqu'à la fin de nos jours. Espérons qu'on grandit dans ce domaine, jusqu'à ce qu'on ait une sanctification totale, qui est le retour du Seigneur. Le jour où on meurt, on voit Jésus-Christ, on est semblable à lui, parce qu'on le voit tel qu'il est. On est entièrement transformé et on est entièrement sanctifié. Et c'est vrai que nous luttons avec notre chair parfois, nos péchés, parce que nous sommes en voie d'être sanctifiés, et Dieu nous éclaire, et quiconque, n'est-ce pas, voit la lumière, vient à la lumière, confesse son péché, se laisse purifier par le sang de Jésus-Christ. Mais il y a un danger parfois à penser qu'il doit y avoir toutes ces étapes dans la vie chrétienne. Est-ce qu'on peut accepter Jésus comme sauveur sans qu'il soit Seigneur? Non. Souvent dans les Écritures, il est mentionné que c'est Seigneur et Sauveur. En fait, le jour où on accepte le Sauveur, on accepte un Seigneur. On ne peut pas accepter d'être sauvé par la croix sans accepter que Jésus-Christ devient le maître de notre vie. Et la première chose que l'on fait, c'est s'humilier devant Dieu, confesser son péché, et on obéit à Jésus à la croix parce qu'il a revêtu nos péchés, il devient Seigneur. On ne peut pas avoir Jésus comme Sauveur sans avoir Jésus comme Seigneur. Alors parfois, certains croyants veulent faire la distinction en disant « Oui, moi j'ai été sauvé, maintenant je l'ai accepté comme Seigneur. » Eh bien, c'est une désobéissance, parce qu'en fait, dans un, en tout cas dans le vocabulaire, parce qu'en fait, lorsque on accepte le Seigneur, il est sauveur, mais il est maître. On ne peut pas distinguer un Jésus sauveur et un Jésus Seigneur. Il est sauveur et Seigneur, et le jour où on l'accepte comme Seigneur. La Bible dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et a vu dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Quelque part, le croyant né de nouveau manifeste ensuite cette voie de sagesse par les œuvres qu'il accomplit. Bien sûr que nous avons besoin de découvrir la sagesse de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande avec foi, sans douter, et elle lui sera donnée. Dans votre vie, dans notre vie chacun, oui, nous avons besoin de la sagesse. Oui, nous manquons de sagesse. Et nous pouvons toujours aller vers Dieu pour demander qu'il nous remplisse sa sagesse. Paul avait une prière même agonisante dans le mot sans cesse ici. C'est un mot très fort dans l'original. C'est un mot qui montre une tension dans la vie de quelqu'un qui s'exprime devant Dieu. Une tension comme quelque chose où Dieu ne peut pas lui refuser. Et Paul disait, en parlant des Colossiens, qu'il priait qu'il soit rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Comment se fait-il que des croyants ont parfois des témoignages plus sages que d'autres? Tout simplement parce qu'ils passent plus de temps avec le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, celui qui est sage par excellence, qui est Jésus-Christ lui-même. Jésus est celui qui nous donne sa sagesse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'en viens au message, j'espère pouvoir arriver jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire de marcher avec circonspection ou avec soin? L'idée ici, dans le latin, circumotur et spessere, regarder, vous voyez, j'ai regardé un petit peu le latin, ça rend bien le sens du mot grec. En fait, le terme circonspection désigne quelque chose de précis, d'exact, l'idée de bien regarder, d'examiner, de sonder avec grand soin, et contient aussi l'idée d'être en éveil. Un jour, notre fils Philippe, qui était en Israël, dans un kibboutz chrétien, pour apprendre l'hébreu et faire des cours de théologie dans le cadre de ses études, n'est-ce pas, à Master Seminary, Master's College, il nous téléphone un jour et dit, oh là là, j'ai évité le pire. J'ai dit, comment ça? Oui, j'étais sorti un peu en dehors de Jérusalem, dans un champ, et je n'avais pas vu un écriteau. Et après, quand je suis revenu au bord de la route, j'ai réalisé que j'avais été sur un champ de mine. Vous vous rendez compte, quand il nous a dit ça, le choc qu'on a eu, ma femme et moi? Alors, heureusement, il n'a pas dû aller trop loin. Le Seigneur l'a protégé, je ne sais pas comment il a fait, mais il n'a pas marché sur une mine. Vous savez, aujourd'hui, il y a des mines antipersonnelles, n'est-ce pas, qui explosent, qui font énormément de mal. La voie de la sagesse, c'est d'éviter les mines que Satan place pour essayer de nous détruire. Il y a des champs de mines dans lesquels nous ne devons pas aller. Nous devons être assez éveillés pour ne pas provoquer le diable, n'est-ce pas? La Bible dit, c'est pour cela que Jésus a prévenu, dans ce sens-là, qu'étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. La voie de la sagesse est parfois étroite, mais la voie de la sagesse, qui n'est pas une voie de détournée, n'est-ce pas, de méandre qui ne cesse jamais. La voie de la sagesse est une voie droite, pure, pacifique, qui amène la paix dans le cœur du croyant. Celui qui est chrétien et qui veut vivre de cette façon-là trouve le chemin de la droiture de Christ. Il n'est pas obligé de faire des expériences malheureuses parce qu'il se tient proche du Seigneur et qu'il garde la voie de la justice, de la sagesse, de la sanctification et donc évite les mines sur lesquelles sa vie pourrait être explosée. Oui, il y a un vrai danger dans la vie du croyant de marcher sur des mines, n'est-ce pas, et finalement de quitter le chemin de la sagesse. La Bible dit dans le psaume 1, certainement que vous connaissez, à propos de l'homme heureux, c'est celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Même des croyants parfois peuvent conseiller malheureusement d'autres croyants. Le vrai fil à plomb, voilà, cherchez le mot, le vrai fil à plomb dans nos vies, c'est ce livre. N'en cherchons pas d'autres. Vous qui êtes proche de vous marier, et la Bible dit, que la voie de la sagesse, c'est d'abord de se marier avec un croyant, pas avec un incroyant. On n'a pas à donner un conseil, peut-être ça va marcher si tu épouses un incroyant. La Bible est claire là-dessus. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. La Bible est très claire là-dessus. Ensuite, la voie de la sagesse, c'est de découvrir la bonne personne. Il y a la révélation générale de Dieu qui nous montre la volonté de Dieu, qui est clairement définie. Puis il y a la volonté de Dieu qui doit se faire à nous en tant que personne, parce que Dieu a une volonté propre pour chacun de nous. C'est à nous à la chercher, à la découvrir. La voie de la sagesse, c'est de marcher dans les voies de Dieu qui s'appliquent à chacune de nos vies. Ce qui est vrai pour l'un n'est peut-être pas vrai pour l'autre dans le sens d'une situation, d'un choix de travail, d'un choix universitaire, d'un choix de vie, dans le sens toujours dans le cadre de la révélation générale. Mais Dieu a une volonté propre pour chacun de nos enfants. Sans qu'on pense, n'est-ce pas, que la volonté de Dieu est comme un cadran et à chaque minute pratiquement de la grande flèche du cadran, Dieu a un plan particulier pour moi. Ça, ce serait de vivre dans une forme de légalisme, une incompréhension de la volonté de Dieu. Mais n'empêche pas moins que celui qui est rempli du Saint-Esprit a une sensibilité particulière pour éviter les voies de l'ennemi. Quel est le livre par excellence, peut-être vous l'avez déjà lu, qui nous parle des dangers dans la vie chrétienne? Hein? Avez-vous déjà lu le livre de John Bunyan, Le Voyage du Pèlerin? Si vous lisez ce livre, un des livres les plus lus dans le monde, le livre de John Bunyan est là pour nous montrer les écueils à éviter. Nous avons besoin d'apprendre à ce que plus comme un bateau qui rentre dans un port où il y a des écueils et où il y avait des bouées éclairantes et lumineuses pour lui montrer la voie à suivre, nous avons besoin d'avoir des choses alignées dans notre vie. La paix de Dieu, les Écritures, le conseil des plus sages où la Bible dit que la sagesse est un grand nombre de conseillers. Parce qu'il y a un danger, frères et sœurs, de devenir inconsidéré. Et le mot grec ici, inconsidéré, c'est un autre mot grec qui veut dire insensé, fou. C'est exactement si on pouvait dire, c'est pourquoi ne soyez pas fou. Mais Paul s'adresse à des croyants. Est-ce qu'un croyant peut devenir fou? Dans le sens que vous avez compris, une voie qui est opposée à Dieu ou contraire à Dieu. Oui, le croyant peut devenir un insensé. David, lorsqu'il a fait le recensement, tout d'un coup il s'est déclaré devant Dieu, j'ai été un insensé. L'orgueil, les mauvaises motivations, l'égoïsme et bien d'autres écueils dans nos vies peuvent nous conduire, n'est-ce pas, dans une voie ou de mysticisme ou de légalisme ou d'égocentrisme où finalement on ne voit plus le chemin de Dieu. En fait, la Bible dit, nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise, de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Nous avons connu, nous qui avons accepté le Seigneur, nous avons connu quelque part dans nos vies. Même si vous avez accepté le Seigneur très jeune, mais gloire à Dieu pour cela, vous avez fait la différence quelque part entre la voix de l'insensé et la voix de la sagesse. Je me souviens d'un pasteur un jour que j'ai entendu donner son témoignage qui a dit « Je me suis converti de ma vie de péché. » J'avais 4 ans. Alors c'est surprenant, n'est-ce pas? À 4 ans. Mais oui, déjà à 4 ans, Dieu peut convaincre un enfant de péché comme le mensonge, l'orgueil, la jalousie, parce que l'Esprit de Dieu est puissant. Ainsi, David est retourné dans une voie d'insensé parce qu'il n'a pas consulté Dieu. Et parfois, nous prenons des décisions en tant qu'enfants de Dieu qui font que notre vie chrétienne, au lieu d'être dans la voie de la sagesse de Dieu, est dans une voie d'entêtement. Et même la Bible dit de stupidité, parce que nous sommes des brebis égarées. Et vous savez que comparer les croyants aux brebis, c'est ce que dit la Bible, et une brebis est un animal particulièrement stupide, entêté, qui vit sa propre vie et qui a toujours besoin d'être entouré. C'est exactement ce que nous sommes. Alors nous avons peut-être à rougir de nos fautes dans le fait que nous n'avons pas suivi le chemin de Dieu. Il y a toujours possibilité de revenir à Dieu, d'être pardonné, d'être restauré et de retrouver la voie de la sagesse. Quelles sont les causes qui font tomber le croyant dans la folie? C'est de cesser de croire ce que Dieu dit. C'est de désobéir à Dieu. Par exemple, Paul dit aux Galates, « Dépourvu de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Êtes-vous tellement dépourvu de sens ?» Donc, perdre son sens, c'est aller dans une voie insensée. « Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ?» Nous devons veiller à obéir au Seigneur, obéir aux commandements, lire la Bible, être imprégné de ce livre de sagesse afin de nous rapprocher de Dieu. Il y a parfois des choses qui nous éloignent de Dieu. Paul dit par exemple à Timothée, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Nous avons rencontré, ma femme et moi, aux États-Unis une fois un homme qui nous a dit « Je savais que j'étais appelé de Dieu, mais je n'ai pas obéi. » C'est dommage, n'est-ce pas, de penser que Dieu nous appelle à quelque chose et qu'on ne suit pas ce chemin. Et dans chacune de nos vies, Dieu a un plan. C'est tragique, n'est-ce pas, de penser que Dieu voit ses enfants sur terre et que certains ne prennent pas le temps de chercher sa volonté et de faire sa volonté. Car nous n'avons qu'une vie à vivre sur terre. Je me souviens, lorsque je faisais mon service militaire à Besançon, en train de rechercher la volonté de Dieu, et moi aussi j'étais un peu résistant et un peu têtu, je vous l'avoue. Il a fallu que la grâce de Dieu et sa grâce abonde sur moi. Je me souviens, quand j'étais en train de dessiner sur ma table à dessin, Dieu m'a dit, Michel, il y aura toujours des architectes, mais toi, est-ce que tu veux travailler pour l'éternité, pour moi? Alors c'est mon appel, tout le monde n'a pas à quitter son travail, mais il y avait un appel précis. Et alors au service militaire, j'étais passé devant le stand du marché tenu par l'armée du salut. Il y avait un écriteau, « Vous n'avez qu'une vie à vivre sur terre. Pour qui, pourquoi allez-vous la vivre ?» Ça fait réfléchir. « Vous n'avez qu'une seule vie à vivre sur terre. Pour qui, pourquoi allez-vous la vivre ?» Comment Dieu nous voit-il ce matin? Est-ce qu'il trouve qu'on est dans la voie de la sagesse, sa sagesse, en étant la lumière du monde, le sel de la terre, ou est-ce que nous sommes dans nos propres voies personnelles, charnelles, en ne considérant pas un brisement intérieur qui est nécessaire pour découvrir Jésus? Quand nous étudions l'évangile de Jean, c'est pas vous, je fais une petite parenthèse, mais comme je prépare les études, je dois dire que, je le dis d'ailleurs au conseil plusieurs fois, je pense, je suis bouleversé par l'évangile de Jean. Pourtant, je l'ai déjà étudié, je pense que c'est certainement un des livres de la Bible que j'ai le plus lu, mais je suis bouleversé par Jésus-Christ. Nous pouvons nous attacher à lui. Et la Bible dit, excusez pour vous mettre un petit peu dans le plan du message, la Bible dit que nous devons racheter le temps. Qu'est-ce que ça veut dire racheter le temps? Quel est le terme ici qu'on pourrait donner en synonyme? En fait, vous avez tous entendu parler de la symphonie inachevée, n'est-ce pas, de Beethoven. Pourquoi est-ce qu'elle était inachevée? Parce qu'il est mort. On peut dire, oui, j'ai commencé une œuvre, mais c'est inachevé, parce que je n'ai pas pris le temps de le faire. Ça, c'est autre chose. On peut mourir d'une œuvre parce qu'on a, et une œuvre devient inachevée, n'est-ce pas? Dans beaucoup de domaines, l'art, la culture, l'architecture et tous les projets des hommes dans les affaires. Quelqu'un qui meurt, mais on peut dire que ses affaires sont inachevées. Mais quand le croyant a des buts de Dieu dans sa vie et que ses résolutions deviennent inachevées, c'est parce qu'il ne prend pas le temps. Quelqu'un un jour, un jeune de 14 ans, j'ai lu ça dans un témoignage une fois dans un livre, avait mis dans sa vie 40 choses à accomplir. D'ici l'âge de 40 ou 50 ans, il s'était fixé un but, notamment d'être médecin. Il est devenu médecin, faire le tour du monde. Il a fait le tour du monde. Mais savez-vous quoi? On n'atteint jamais ce qu'on n'a jamais planifié, ce qu'on n'a jamais comme but dans la vie. Si vous n'avez pas de but dans la vie, vous allez avoir beaucoup d'œuvres inachevées. Une façon de racheter le temps, de gagner du temps, c'est justement de ne pas perdre son temps. Et quand Dieu nous demande d'être des évangélistes, de faire l'œuvre de bons évangélistes, de racheter le temps, de saisir les occasions, c'est parce qu'il y a des occasions favorables qu'on ne doit pas laisser passer. Non seulement il y a l'idée du temps ici, bon, ce n'est pas le mot grec pour le temps, l'heure, n'est-ce pas, nos montres. Peut-être en ce moment vous dites, quand est-ce qu'il va finir? Bon, ok, rassurez-vous, ça va finir. Ça c'est le temps de l'horloge. Mais il y a le temps de la vie. David, par exemple, disait ceci à un moment donné, « Jusqu'à quand, l'Éternel, te cacheras-tu sans cesse? Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main et ma vie est comme un rien devant toi. » Est-ce que nous savons compter nos jours? Est-ce que nous savons vraiment racheter le temps? Le mot « racheter » ici, c'est le même verbe dans le grec, l'idée que l'esclave qui est racheté sur le marché de l'esclavage. Nous devons racheter le temps, gagner, ne pas perdre notre temps, parce que notre temps est si précieux et nous n'avons qu'une seule vie à vivre. La Bible dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le vit, si Dieu le veut, nous vivrons. Et nous ferons ceci ou cela, mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien qu'il ne le fait pas commet un péché. La Bible nous dit que nous devons racheter le temps. Noé a fermé la porte de l'arche. Et à un moment donné, le temps du salut était terminé pour la génération de Noé. Les cinq vierges folles, il y avait un temps où le Seigneur revenait et allait en prendre. Et il y avait ceux qui avaient l'huile, n'est-ce pas, pour les lampes, et ceux qui n'en avaient pas. Jésus lui-même a dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Est-ce que nous considérons le temps comme une valeur? Est-ce que nous rachetons le temps? Je pense que c'est Voltaire qui a dit à son serviteur, avant de mourir, « Si tu me permets de vivre 24 heures encore, je te donne la moitié de ma fortune. » Ça ne servit à rien. Ça ne servit à rien. Il y a des gens qui donneraient tout leur argent pour acheter le temps. Mais le temps s'en va. Et le temps s'écoule. Comme dit le cantique, à un moment donné, on n'a plus le temps. On n'a qu'une seule vie à vivre sur terre. Pour qui, pourquoi allons-nous la vivre? Vous savez ce qu'a dit Napoléon? Il existe, au milieu de toute grande bataille, une période de 10 à 15 minutes qui est le moment crucial. Saisissez ce moment et vous gagnez la bataille, laissez-le vous échapper et vous êtes défait. La conscience du temps, du momentum ou du timing, comme on dit en anglais, n'est-ce pas? J'ai bien aimé, quand nous nous sommes mariés, ma femme et moi, nous avons reçu des cadeaux aux États-Unis et nous avons reçu, tenez-vous bien, cette horloge. Pourquoi cette horloge? Cette horloge. Alors, on en avait de toutes sortes qu'on pouvait décorer par-ci, par-là. On a dit, les gens pensent qu'on n'est jamais à l'heure, il y a quelque chose qui se passe. Mais il y avait une petite horloge que j'aimais particulièrement, qu'on a gardée pendant des années. Et c'était écrit en anglais, en dessous des aiguilles, « God's timing is perfect ». Le temps avec lequel Dieu gère le temps est parfait. Est-ce que nous sommes en harmonie avec l'horloge de Dieu? Il y a un grand ami de Luther, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de la réforme, qui s'appelait Philippe Melanchthon, qui a écrit les Confessions d'Augsbourg. Vous savez ce qu'il faisait cet homme-là? C'était un grand érudit, un grand théologien, c'était un grand ami de Luther. Chaque fois, dans la journée, qu'il pensait perdre du temps, il le notait. Et à la fin de la journée, il demandait à Dieu de lui pardonner d'avoir perdu son temps. Devant nos écrans de télévision, notons quelque part un petit verset. Hein. Notons un flash rouge. Est-ce que je suis à ma place là? Est-ce que c'est le temps de Dieu pour moi? Vous savez, Théodore Monod, dans son livre Les Adieux, a dit quelque chose de terrible. Il disait par exemple, on croit de la prédication de la croix, parce que prêcher, ça demande du cœur, n'est-ce pas? De la préparation. Il prêchait des fois 2-3 fois par jour, pendant des mois, au croix de la prédication de la croix. Puis il disait, à la fin de ma vie, je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir assez prié. Il y a un temps dans la vie où on réfléchit sur le passé, on réfléchit sur le présent. Mais il y a un temps dans la vie aussi où on vit dans le passé, on vit dans l'avenir, mais on ne vit pas dans le présent. S'il y a un moment où il faut racheter le temps, c'est aujourd'hui, déjà. Cet après-midi, qu'est-ce que vous faites? Soyons pratiques, frères et sœurs. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que cet après-midi est une après-midi planifiée pour glorifier votre Dieu? Et cette semaine, est-ce qu'elle est planifiée pour glorifier votre Dieu? En fait, est-ce que votre vie est planifiée pour plaire à Dieu, glorifier son nom? Mon fils disait, Dieu mon fils, dans les proverbes, disait, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est quand Dieu a notre cœur qu'il a aussi notre temps. Qu'est-ce que nous faisons de notre temps? Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Il y a un temps pour tout. Les jours sont mauvais, des temps de persécution. Je me souviens une fois, je vais terminer, rassurez-vous, hein. Peut-être d'ici une demi-heure. Je me souviens une fois, étant étudiant en théologie à Paris, faisant mes études, j'ai un copain qui me dit, Michel, viens, on va aller à la radio parce qu'il y avait des chanteurs qui passaient, etc. Alors, on vivait dans le 6e arrondissement pour implanter une église. En fait, j'avais déjà donné un traité à Belmondo et d'autres artistes parce qu'ils vivent un peu dans ce quartier, bref. Et à un moment, il me dit, viens, on va écouter une audition de Joe Dassin. Oui, pourquoi pas, j'aimais bien Joe Dassin, j'y suis allé. J'étais fier d'être à la radio, spectateur, vous savez. Bon. Et puis les gens lui ont parlé. Et savez-vous quoi? J'avais un traité dans la poche. Le simple plan du salut de Dieu. Et je ne lui ai pas donné. Et quelques temps plus tard, vous le savez, Joe Dassin est décédé. Alors, heureusement, dans sa souveraineté et bonté, je ne crois pas que Dieu ait dépendu de moi pour sauver Joe Dassin, n'est-ce pas? Je ne pense pas. Mais quand même, j'avais une occasion. Je l'ai échappé. J'aimerais vous dire ceci, c'est que si nous avons fait un concert, sans faire de politique, hein, si nous avons fait un concert sur la place du Capitole, un jour, c'est parce que l'ancien maire nous a donné l'autorisation. Mais aujourd'hui, le nouveau maire ne veut rien savoir de tout ce qui est religieux, église, etc. Il y a un temps pour tout. Si on n'avait pas saisi cette occasion, ces milliers de gens qui ont écouté, en tout cas, une forme d'évangélisation et d'évangile, est-ce qu'ils auraient pu entendre ce qu'ils ont entendu? Il y a un temps de Dieu. Et il y a un temps pour terminer un message, et je suis rendu au troisième point, donc je vais terminer maintenant. Je ne sais pas quand est-ce qu'on continuera, mais je prends un autre courant, un autre point, là, ça va prendre, je pense, un petit peu de temps. Oui, c'est ça, un petit peu trop de temps, donc on va arrêter. Voilà, prions s'il vous plaît. Notre Père Céleste, nous reconnaissons notre besoin de racheter le temps, de ne pas être inconsidéré. Nous confessons que dans nos vies, il nous est arrivé bien souvent de perdre notre temps, d'être dans des voies qui n'étaient pas les tiennes, de nous entêter loin de ta volonté, jusqu'à ce que tu nous rattrapes, parce que tu es un Père qui châtie ses enfants. Et nous te remercions, Seigneur, de la verge de correction qui nous permet de rester dans tes voies. Non seulement tu le désires parce que tu nous aimes, mais tu le désires pour notre bien, parce que de loin c'est le meilleur de te connaître et de marcher dans tes voies. Alors nous voulons à l'instant te bénir, Père éternel, te donner toute la gloire, te reconnaître comme Seigneur de nos vies. Et Père, je voudrais te demander que, en cet instant, nous tous ici, nous puissions considérer nos voies et nous poser la question, est-ce que je suis à la bonne place en ce moment ? Que Dieu a pour moi. Est-ce que je pratique ce que Dieu veut que je pratique? Est-ce que mon emploi du temps est le reflet de Jésus comme maître de l'horloge de mon temps et aussi maître de mes orientations et décisions de vie? Papa du ciel, veuille nous visiter dans ta bonté. Veuille nous apprendre à marcher dans la voie de la sagesse. Et pour cela, avoir une compréhension spirituelle de tes voies et te connaître Jésus. Te connaître pour te suivre. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen.